Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous. Merci David de nous rafraîchir un petit peu avec ta programmation musicale parce que on en a besoin ici. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Alors aujourd'hui, nous recevons l'Arbre à Pain de Bégard. Nous avons dans notre studio Corinne Mulquin, la directrice, ainsi que Tina Lacoste, community manager. Bonjour mesdames, comment allez-vous ?
Bonjour, on va très bien.
Oui, merci.
Très bien, merci d'avoir traversé la fournaise pour nous rejoindre. On va passer une petite heure ensemble et on va découvrir votre association, et quelles sont toutes ses missions sur le territoire, qui fait, comme beaucoup d'associations, un travail important dont la société a besoin. On va d'abord passer un petit moment à écouter le Flash Info national et international, et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti, nous sommes de retour avec Corinne et Tina de l'Arbre à Pain de Bégard. Alors évidemment, on en parle tout le temps, on en parle en antenne, hein, vous aviez un record qui a été battu. C'est presque dommage.
Bah oui, on a été battu par Pissos hier.
Voilà, ouais.
Mais sinon, Bégard, on a eu très chaud, effectivement. Oui.
Ouais, ouais. Pissos, 44 et des poussières, ouais, ça paraît incroyable. Mais pourtant, c'est là. On en a parlé depuis un moment, mais c'est là, à notre porte. Hein. Voilà, on va commencer l'émission par une petite tradition. On aime bien avoir une idée de la trajectoire personnelle de nos invités. Savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie pour se retrouver aujourd'hui à ce micro. On va commencer par vous, Corinne, si vous voulez bien.
Eh bien, avec plaisir. Donc, moi, j'ai eu un parcours professionnel où je suis toujours restée dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, puisque j'ai commencé comme accompagnatrice socio-professionnelle dans une association d'insertion. Après, j'en suis devenue directrice et il y a 4 ans, je suis arrivée directrice à l'Arbre à Pain.
Très bien. Merci beaucoup. Tina, on va passer à vous.
Alors moi, après mon bac, j'ai voulu faire une année de césure parce que je n'avais pas d'alternance pour aller dans l'école dans laquelle je voulais aller. Du coup, j'ai décidé de travailler à l'Arbre à Pain en tant que salariée en insertion aux espaces verts. Ils m'ont du coup aidé à concrétiser mon projet par rapport à l'alternance. Et maintenant, j'ai travaillé en tant qu'alternante communication et je travaille également à l'Arbre d'insertion mobilité.
D'accord, très bien. C'est intéressant d'avoir aussi un témoignage de quelqu'un qui a fait partie du dispositif. Alors, tiens, une question. Alors, je ne sais pas à quoi vous vous destiniez au départ. Vous disiez vous vouliez faire quelque chose dans une école. Vous vouliez faire quoi au départ?
Je voulais faire de la communication, une école de communication, sauf que je n'avais pas d'alternance.
D'accord.
Mais du coup, maintenant, j'ai sué mon alternance, c'est l'Arbre à Pain.
Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous êtes allé, on va dire, du côté jardin, par exemple, parce que vous avez fait quoi là-bas, à l'Arbre à Pain? Qu'est-ce que vous avez fait
quand je travaillais là-bas, en espace vert petit bâtiment.
Oui.
Je faisais la tonte, du débroussaillage, tonte et débroussaillage surtout.
D'accord.
Et après, le ratissage de camping en hiver.
Voilà, je pose la question parce que c'est loin, c'est assez éloigné de votre cible que vous aviez au départ.
Mais oui.
Donc, c'est comment, pourquoi vous avez choisi ça, où il y avait de place que là, ou alors vous avez dit, allez, on y va.
Parce que j'avais pas encore le permis. Du coup, c'était assez compliqué pour moi de trouver du travail. Et vu que c'était à Tartas, à côté de chez moi. Et ils m'ont également aidé pour le permis, tout ça. Et voilà. Après, voilà.
D'accord. Donc on a compris, c'est parce qu'ils sont sympas aussi. Voilà.
Oui.
On est même très sympas.
Oui, très sympas, c'est vrai. En tout cas, c'est l'impression que j'ai depuis le début. On va parler un petit peu du coup de l'Arbre à Pain, cette association, on va dire. Alors, depuis quand est-ce que ça existe? C'est quoi son historique?
Eh bien, l'Arbre à Pain a fêté ses 25 ans il y a quelques mois maintenant. L'Arbre à Pain a commencé au tout début. C'était la volonté de 2 travailleurs sociaux sur le territoire qui s'est aperçu qu'il manquait une offre sur l'alimentaire.
Oui.
Et donc, elles ont travaillé avec les élus qu'il y avait en place à ce moment-là pour travailler sur le projet d'une épicerie sociale. Et donc, l'Arbre à Pain a débuté par une épicerie sociale sur Rion-des-Landes.
Oui.
Et très vite, quelques mois après, il y en a une qui a été ouverte sur Tartas. Mmh. Et après, celle de Pontong, ça a été, elle, ouverte, par contre, en 2019.
D'accord.
Alors, pourquoi sur ces villes-là ? C'était essayer de mailler un peu le territoire de la communauté de communes pour que les personnes qui étaient bénéficiaires n'aient pas trop à se déplacer.
Oui.
Parce qu'ils avaient des problèmes financiers et le but n'était pas d'aller accentuer avec le déplacement.
Oui, voilà, c'est comme on disait hors antenne, on a reçu une solution mobilité, on a parlé de ce problème justement, et même Tina l'a évoqué en fait.
Tout à fait.
Vous étiez directement impacté par... ben voilà, c'est ça qu'à un moment donné, on a besoin de trouver du travail, mais si on n'a pas de véhicule et dans les Landes, ça devient très compliqué, quoi, sans solution en emplacement.
Oui. C'est ça, c'est très compliqué, effectivement, même qu'on essaie de travailler sur le covoiturage et tout ça, mais ce n'est pas encore assez démocratisé, effectivement, ce n'est pas assez dans l'air du temps, on va dire. Et donc, effectivement, le permis et la voiture sont encore indispensables.
Ouais. Et oui, malheureusement, enfin, avec le prix de l'essence, etc., voilà, c'est problématique. Eh oui, donc, du coup, l'arbre à pain, hein, donc le symbole était trouvé, hein, dans votre logo d'ailleurs évoque un peu un arbre, mais dont les branches étront sur des gens, des humains.
Exactement. Les branches représentent les différentes activités et toutes les petites feuilles sont les humains à qui on a tendu la main, en fait.
Voilà. Donc vraiment, vous êtes parti du côté nourricier de votre activité. Ouais, on va commencer peut-être par ça, du coup, on va en parler un petit peu. Ces épiceries sociales.
C'est ça. Donc, les épiceries sociales, on accueille des personnes qui nous sont orientées par les assistantes sociales ou les travailleurs sociaux du territoire. Essentiellement, la philosophie, c'est les bénéficiaires des épiceries doivent habiter la communauté de communes du Pays Tarusat.
Mmh.
C'est la condition. Et après aussi, ça va dépendre de leur quotient familial.
Mmh. Ouais, donc voilà. C'est directement lié au problème de revenus.
Exactement. C'est souvent des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pour vous donner un exemple, une personne seule, le seuil de pauvreté, on est à 1160 euros. Donc nous, on accueille des personnes qui sont en dessous de ce seuil-là pour les personnes seules. Et après, ça s'additionne au fur et à mesure avec le nombre de personnes qui composent la famille.
Oui. Alors ça me fait rappeler le calcul de tête. Je dis que c'est pas très loin du SMIC non plus. Hein.
Non, mais il y a encore 200 euros de décart avec le SMIC, effectivement.
Non, mais c'est pour dire que le SMIC n'est pas... D'ailleurs, le SMIC dans SMIC, ça veut dire minimum, hein, on est d'accord.
C'est ça, tout à fait.
Hein. Donc, ce qui veut dire quand même que même le SMIC est censé être le minimum
même
social.
Effectivement.
C'est très difficile de vivre avec correctement, en fait.
Oui, parce qu'on peut avoir des personnes qui ont le SMIC, effectivement, qu'on ne peut pas prendre, mais qui, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, avec le coût de l'essence, le fait d'aller travailler et le coût sur la mobilité pour se rendre au travail est très important dans un foyer.
Ben oui, c'est ça. Alors, un pourcentage, je ne sais plus, j'ai plus les valeurs en tête, mais au coût actuel de l'énergie, l'électricité, on va dire que quelqu'un qui gagne, s'il gagne le SMIC, il doit mettre 250 euros par mois à peu près, au moins, de frais. C'est ce qu'il doit dépenser pour pouvoir gagner le reste.
À peu près, c'est ça.
C'est pas mal.
C'est ça, oui.
Ça fait un pourcentage vraiment
ça fait
non négligeable.
Déjà plus de 20%,
oui. Ouais, c'est énorme, hein. Et donc, ces épiceries sociales, donc il y a 3 sites.
Oui.
Et alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, la question que je me posais, c'est donc c'est une épicerie, on y vend des choses, et donc on a parlé d'alimentaire. Les produits eux-mêmes, d'où proviennent-ils ? Est-ce que vous avez une centrale d'achat ? Comment est-ce que ça fonctionne ?
Ben, nous, du coup, on travaille avec la banque alimentaire. Et on fait également des récoltes dans les commerces de l'agglomération.
Mmh.
Donc, le Leclerc de Rion, Intermarché de Tartas, Carrefour de Tartas et le Netto de...
Ouais. On a le droit de dire les marques, là, parce que c'est des gens, ils font des dons, ils méritent qu'on les remercie aussi.
Ils font des dons tous les jours, donc oui, effectivement, ils contribuent à nous aider à pouvoir venir alimenter les personnes, donc au final, ils méritent quand même.
Ben oui, c'est vrai, parce qu'on dit tout le temps, il ne faut pas citer les marques dans les médias.
Ouais, désolé, fait.
Ah ben non, c'est normal, là franchement, ils le méritent, donc il n'y a pas de souci. Oui, alors comment ça se passe d'ailleurs, les relations avec tous ces gens, c'est devenu régulier, habituel, tous les jours ils vous appellent, ou alors il faut un peu dire, tiens, vous avez quelque chose en ce moment, comment ça se passe la relation avec ces entreprises ?
Alors tous les jours, on passe tous les matins entre 9h 9h30 à 11h, on passe dans tous les magasins. Il y a des conventions qui ont été signées parce qu'ils souhaitaient vraiment affirmer leur, leur engagement. Donc voilà, donc ils ont, on a signé des conventions. Les magasins du pays de Tartas, on y passe tous les matins. Celui de Rion, le Leclerc de Rion, on y passe le mardi et le jeudi.
D'accord. Bon, mais ça c'est bien parce que c'est, comment dire, c'est une expression de la solidarité du territoire aussi.
C'est exactement, c'est ça aussi, c'est qu'ils ont à cœur de venir, d'apporter leur soutien effectivement aux personnes. Et pour nous, c'est important puisque c'est ce qui permet de pouvoir vous donner juste un chiffre comme ça. On a pu alimenter 736 familles l'année dernière.
Eh oui. Ça, voilà. C'est un chiffre dont on peut être fier. Hein. Bravo, parce que au moins, c'est l'impact direct, utile de l'action que vous menez. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent et qui peuvent se nourrir.
C'est ça.
C'est pas mal. Moi, je trouve que c'est pas mal de pouvoir s'appuyer sur ce genre de résultats. Hein. Et puis, alors, comme, voilà, si tous les biens que vous vendez dans, la, dans les, ces épiceries solidaires, ben, si elles sont données par les entreprises, etc., ça veut dire que c'est, entre guillemets, tout bénef, c'est-à-dire que ben, vous n'avez pas besoin d'acheter les produits, sauf peut-être.
Alors, on n'achète pas effectivement l'alimentaire, parce que c'est vrai que j'ai oublié de citer dans les dons aussi, on a une entreprise qui fait la production d'œufs sur le pays Tarusat et qui nous donne des œufs bio aussi tout, toutes
sympa,
les semaines. C'est vrai que j'ai oublié de, les, de le dire. Et après, par contre, pour les produits d'hygiène, effectivement, là, on achète et on a un partenariat avec la Fondation L'Oréal.
D'accord.
Qui, où là, on achète à très 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 bas prix tout ce qui va être pour toute l'hygiène corporelle et l'hygiène de la maison.
Ouais, d'accord, bah c'est bien de le préciser. Et bah, c'est déjà le moment de faire une petite pause. On va écouter un petit morceau de musique et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et nous voilà de retour avec l'arbre à pain, donc avec Corinne et Tina. Alors on était en train de parler des épiceries sociales et mon petit doigt me dit qu'il y a aussi des ateliers qui sont attachés à cette activité.
Oui, alors nos bénéficiaires peuvent s'inscrire en épicerie pour assister à des ateliers. On a des ateliers de couture, des ateliers créatifs, des ateliers cuisine. Mmh. Et après, on a des ateliers un peu plus spécifiques comme pour Halloween, Pâques.
D'accord.
Voilà.
Alors, est-ce que alors, des ateliers cuisine, ça me fait penser à... comment dire, on va parler un petit peu de la partie après maraîchère. Est-ce que aussi... ça peut être rattaché à ça, parce que du coup, puisque vous vendez des légumes, est-ce qu'il y a aussi des ateliers cuisine qui sont rattachés à...
Alors, effectivement, le but de ces ateliers cuisine, c'est de pouvoir montrer aux personnes qu'on peut cuisiner pour pas cher et de cuisiner de bonne qualité. Et donc, effectivement, on peut aller chercher les légumes au jardin, puisqu'on a un jardin à Soupros. Mmh. Et après, sinon, ça, on fait beaucoup avec les invendus du jardin. Et après, sinon, le jardin vend aussi aux particuliers.
Oui, alors c'est vrai, ça, je le dis souvent, mais donc les personnes qui sont en difficulté économique subissent souvent la double peine de la nourriture, c'est-à-dire avec peu de moyens, ils achètent des fois des cochonneries, des produits hyper transformés. C'est que non seulement ils n'ont pas les moyens d'avoir de la nourriture de bonne qualité, c'est qu'en plus, ils ont en fait, c'est vraiment la double peine. Hein, ça les tire vers le bas, en fait, même sur la qualité de vie.
Et c'est pour ça que nous, on essaye justement de travailler là-dessus. C'est pour ça que par exemple, on a développé le partenariat avec l'entreprise qui nous donne les œufs bio. Mmh. Et on travaille justement sur valoriser, cuisiner pour mieux manger, effectivement. Mmh. C'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant. Ça nous est arrivé des fois, en fonction des arrivages des légumes, de concocter un petit panier de présentation avec la recette. Mmh. Par exemple, pour faire une quiche à la courgette, par exemple. Et, en même temps, on met le coup à côté pour montrer, pour montrer que c'est vraiment pas cher et que ça permet de mieux manger.
Côté pédagogique
aussi,
un peu.
Voilà, on essaie aussi de les sensibiliser, effectivement, à se mieux manger.
Et oui, c'est vrai que, bon, après, on est dans une région... où le bien vivre, le bien manger est quand même
c'est important
est quand même important et c'est vrai que de faire un petit peu de cuisine avec des produits comme ça, c'est à la fois meilleur pour la santé et ça revient moins cher que d'acheter des cochonneries transformées. Donc voilà, il faut y aller, hein. Très bien. Alors donc c'est jardin, c'est culture maraîchère. Qui est-ce qui travaille dans ces qui c'est qui s'occupe des légumes, qui les fait pousser, qui les plante?
Alors, au jardin, on a un encadrant technique et des salariés en insertion. Et ils s'occupent de la plantation, des semis, des récoltes. Ils font également des paniers. Mmh. C'est sous un système d'abonnement. Et ils font de la vente directe sur les marchés. Mmh. Pour les dates, c'est... c'est à Riom-des-Landes le mercredi, mmh. à Pontonx sur la Dour le jeudi et à Tartas le vendredi, c'est de 9h à midi.
D'accord, alors ce système-là de panier, etc., ça fait penser au fonctionnement d'une AMAP, si je ne m'abuse.
Tout à fait, c'est ça. Donc le but, c'est de pouvoir, ça nous permet de maîtriser la production, d'avoir effectivement la vente sous panier, sous abonnement. Comme ça, on a une prévision de la production, en fait. Mmh. Donc on essaie effectivement de développer ces abonnements sur les paniers. Bon, je vous avoue que des fois, l'hiver, les gens en ont un peu marre avec les choux.
Ben oui,
hein.
c'est sûr.
Voilà, l'été, c'est beaucoup plus facile. Effectivement, on a plus d'abonnements sur l'été, parce que les légumes d'été, on arrive effectivement à les manger plus facilement, à les cuisiner plus facilement que le chou.
Ah, mais moi, je suis un grand défenseur du chou. Alors déjà, hein, avec un chou, on peut faire de la garbure. Hein.
Ah oui, je sais, mais bon.
Hein, quand même. C'est, la garbure, vous la faites le dimanche et vous la mangez jusqu'au samedi suivant.
Hein. Ah, c'est ça. Et comme ça, le panier, quand il revient le lundi, voilà. On a de nouveau le chou.
Bon, voilà. C'est vrai que... D'où l'intérêt des ateliers de cuisine. Hein.
Exactement. Et après, on va essayer là, de développer, justement, on essaie de glisser des recettes dans les paniers pour donner des envies aux gens.
Ça,
justement,
oui.
pour leur montrer que le chou, on peut l'utiliser sous plusieurs manières.
Oui, oui, c'est vrai. Et puis le chou, même les autres, hein, y a plein de légumes comme ça. Je dis hors antenne, je pense par exemple à la pomme de terre. Mais alors là, j'aurais du mal à faire une liste exhaustive de tout ce qu'on peut faire avec une pomme de terre.
C'est ça.
Et puis c'est pas le légume le plus cher non plus. Hein.
Exactement, c'est pas non plus le légume le plus cher.
Ouais, voilà. Bon, ceci dit, en ce moment, les producteurs de pommes de terre, ils ont des gros problèmes. Hein. Ils ont des invendus, ils sont des fois obligés par endroit de les donner.
C'est arrivé effectivement sur l'année dernière, oui.
Voilà, et donc là, j'ai vu sur Sud-Ouest, il y a des articles qui en parlent et c'est un peu malheureux parce que les gens, ils ont travaillé durement, hein, comme tous les agriculteurs, et ils se retrouvent à donner ou jeter.
Ceci dit,
alors, on parlait d'épicerie. Est-ce que des fois aussi, vous avez des producteurs locaux qui vont vous donner des invendus ou des surplus? Est-ce que ça peut arriver ponctuellement?
Ça peut arriver. C'est déjà arrivé ponctuellement. On a eu, par exemple, des dons de carottes l'année dernière.
Ah oui.
Voilà, oui, ça arrive. On a eu des dons d'asperges aussi.
Ah ben voilà,
voilà.
Ça c'est pas mal.
Le classique des Landes.
Oui,
quoi,
oui,
en fait.
Oui, carottes, asperges, oui, c'est vrai. Quelque chose qui pousse dans le sable.
Exactement.
Voilà, c'est ce qu'il faut. Ouais. Mais asperges, c'est bien, hein, un petit don d'asperges.
Oui, c'est appréciable.
Ah ben oui, ça c'est... Et donc, alors, c'est ces cultures maraîchères. Et le but, alors encore une fois, hein, on ne l'a pas dit comme ça, on ne l'a pas précisé. C'est vrai que le but de votre association... comme toutes les associations du même style, c'est l'insertion par l'emploi. Ce n'est pas juste donner une chance aux gens du territoire d'avoir accès à des produits moins chers, etc., ou locaux, c'est ça.
Ça, c'est effectivement, ça vient en second temps, mais la priorité et l'objectif principal de l'association, c'est d'accueillir et d'accompagner des personnes à retrouver un emploi. Tina est un exemple.
Mais voilà, c'est formidable d'avoir Tina là.
Tina est un exemple, effectivement. Mais oui, notre cœur de métier, notre priorité reste celle-là.
Voilà, c'est ça. C'est important de le dire parce que voilà, ça permet effectivement, pour parler des produits, etc., c'est vrai, mais que les gens puissent avoir une activité professionnelle qui leur permet de vivre, ben, c'est bien pour eux, puis c'est bien pour tout le territoire. Hein. Il vaut mieux avoir des gens qui travaillent que des gens qui ne travaillent pas. Hein. Ça fait fonctionner l'économie, la vie de tous les jours. Hein.
Ça fait, voilà, exactement, fonctionner l'économie et puis redonner confiance aux personnes.
Voilà,
voilà.
Oui, c'est vrai que des fois, quand on se retrouve en situation de pas travailler pendant un moment, etc. Contrairement à ce que beaucoup de gens veulent faire croire que c'est des gens qui font rien, qui en profitent. En fait,
pas du tout.
C'est pas marrant.
Non.
Il faut le rappeler, c'est pas marrant de pas avoir de boulot en 2026.
C'est pas marrant, hein, et effectivement, voilà. Souvent, ça entraîne un peu des formes de dépression, des petits problèmes de santé, parce que justement, on perd la confiance en soi.
Voilà, c'est vrai. Donc, il faut le rappeler, donc. Très bien, on va faire une deuxième pause. On va écouter encore un petit peu de musique et le flash info local. Je vais parler dans ce flash info local de votre record que vous avez perdu. Mais la semaine n'est pas finie. Vous avez peut-être une chance de le rebattre. À tout
C'est
de suite.
Ça.
Et nous voilà de retour. Alors, on a écouté le petit morceau dernier, c'était There Is You de Larsen Blues, un gars du coin, un musicien. Vous avez pu constater qu'il se débrouille très très bien au chant, à la guitare et à l'harmonica. Alors, on va parler aussi un petit peu de... Parce que vous avez plusieurs activités, hein. Donc on a parlé de la partie épicerie, on a parlé aussi du jardin, la culture maraîchère avec la vente des produits. Et vous avez aussi la partie chantier environnement avec des travaux d'espace vert et aussi entre guillemets du bricolage, c'est-à-dire un peu de plomberie, etc. Donc comment ça s'articule tout ça ?
Alors je vais commencer, puis je laisserai Tina parler parce que Tina, elle est issue de ce secteur-là, elle en parlera mieux que moi.
C'est le moment Tina. Allez, après.
Donc nous, on travaille. Alors là, on est sur une grande équipe puisque on est quand même un coordinateur, un chargé de mission, 4 encadrants, 23 salariés en insertion. Et on va intervenir dans les entreprises ou pour les collectivités en fonction de leurs demandes ou en fonction du marché sur lequel ils peuvent passer et qu'on peut répondre. Je vais prendre l'exemple sur le marché du département pour le littoral, pour le nettoyage du littoral. Où une fois par mois, on va nettoyer, je regarde Tina parce que je ne sais plus exactement, je crois que c'est 3 km à pied qui sont faits une fois par mois.
D'accord.
C'est ça Tina ? Tu te souviens pas ?
Je me souviens plus.
Ça souviens plus. Ça fait une petite balade.
Voilà, ça fait une petite balade. Voilà. Et après, on va faire effectivement beaucoup ce qui va être la tente taille de haie, des débroussaillages pour des collectivités ou entreprises. Je vais prendre ce matin, nos collègues sont partis sur les chemins de randonnée du département pour nettoyer ces chemins de randonnée pour que les gens puissent aller se promener après.
Ah bah alors merci beaucoup, parce que ça, justement, moi qui j'aime bien, dans notre région, il y a quand même des chouettes rando. Il y a plein de... En ce moment, c'est un peu compliqué, mais il y a des tellement jolis coins avec des zones humides, etc. Que ce soit faune et flore, c'est génial. Et c'est vrai qu'il y en a des kilomètres. Et j'avais reçu l'an dernier à Soustan le chargé au département de la gestion des chemins de rando et pied, à cheval et à vélo, et une directrice technique. On avait parlé ça aussi de l'entretien, parce que il faut les entretenir, il faut refaire le balisage. Enfin, ça représente vraiment beaucoup de travail.
C'est ça.
Et je savais pas que vous participiez à
et
ça.
Et nous, trois fois par an, on passe en respectant sur notre territoire, les chemins de randonnée du pays Tarusat et du pays Morsonnet.
Ah ben merci beaucoup, je penserai à vous la prochaine fois, je me promènerai alors.
Avec plaisir.
Très bien. Alors oui, on a discuté en antenne et j'ai découvert qu'il y avait un lien entre vous et l'association que j'ai reçue hier. On a parlé de la fameuse site, la réserve naturelle régionale des carrières de Terre 6. Eh bien, il se trouve que vous intervenez là-bas, je viens de le découvrir.
Eh bien aussi, parce qu'effectivement, on a répondu à un marché où on y va pour faire le nettoyage et entre autres l'arrachage des plantes invasives qu'ils peuvent avoir sur ce site-là.
Et voilà, c'est ça, on en a parlé justement de ces plantes. Alors, il y a toujours, celle qui revient toujours, c'est la jussie, qui est très jolie en ce moment. Hein. C'est
une belle plante, très belle, mais elle est très invasive.
Et ouais, c'est ça, voilà. Donc, du coup, quand on fait un petit tour à la rando, là, à gauche, avant de rentrer dans la carrière, il y a des barthes, etc. Et là, souvent, les barthes, il y a de l'eau et la jussie.
Et la jussie avec.
Elle envahit tout. Hein, voilà. C'est marrant. Donc, du coup, vous faites ça aussi.
On peut faire ça, effectivement, pour préserver ces espaces naturels et surtout préserver la faune et la flore qui puisse y avoir. Donc, effectivement, on fait beaucoup. C'est du travail manuel où on enlève, effectivement, ces plantes invasives.
Mmh. Oui, parce qu'il ne faut pas se contenter de les couper, il faut les arracher.
Il faut les arracher pour éviter qu'elles repoussent, effectivement.
Ouais. Comme le plumeau, là, ce fameux plumeau des Andes, là, où
on
la
appelle
pampa,
la Saint-Fouin. Hein.
Ouais, voilà, et ça, c'est joli.
C'est très beau quand
c'est joli dans le jardin.
Peaux.
Les gens faisaient ça il y a 30-40 ans, sauf que maintenant, on se fait envahir.
On se fait envahir, et maintenant, effectivement, il faut même lutter effectivement, pour éviter que ça s'envahisse parce que c'est ça se propage très vite. Hein.
Oui. Alors, Tina, qu'est-ce que vous faisiez comme genre de travaux quand vous étiez dans cette unité-là ?
Alors moi, je faisais de la tonte de pelouse, du désherbage, de la débroussailleuse. Après, du coup, j'allais sur le littoral pour le ramassage de déchets.
Oui.
Après, du coup, sur les campings, ratisser les campings. Et sinon, tout ce qui est taille de haie, tout ça, j'ai jamais touché, comme la Saint-Fouin.
Oui, le rachage, vous n'avez pas fait ça ?
Oui, non.
D'accord. Et donc, je voulais faire le parallèle ou la différence avec d'autres types de structures, genre ESAT, etc. Vous n'avez pas, par contre, on a bien dit, vous intervenez chez les entreprises ou les institutions et pas chez le particulier.
Exactement,
pour faire ça.
On n'intervient pas chez le particulier parce qu'on n'est pas, en tant qu'atelier chantier d'insertion, on n'est pas habilité à travailler chez le particulier, puisque le particulier, quand il fait travailler une entreprise ou une personne, il peut bénéficier d'un crédit d'impôt. Et nous, on n'est pas habilité à faire le crédit d'impôt, donc on n'y va pas.
D'accord, très bien. Alors, vous faites aussi, alors bon, on change encore vraiment de sujet, hein, de créneau, la numérisation de documents. Ça peut être surprenant quand on a vu la liste de ce que vous faisiez. On ne s'attend pas à cet aspect numérique des choses. Mais donc, comment est-ce que c'est arrivé, ça ?
Alors, cette activité, effectivement, elle est née il n'y a pas longtemps. Elle est née il y a 3 ans exactement. Et en fait, on est parti du constat, surtout du public qu'on accueillait, qu'on accompagnait. Puisque donc, il y avait une frange d'un public qui avait des problèmes de santé et qu'on ne pouvait pas forcément mettre au travail dans les autres secteurs, puisque on l'a vu, hein, que ça soit physique, le maraîchage, l'épicerie ou les espaces verts, ça demande quand même une certaine compétence physique que certains n'avaient pas. Et on se demandait, mais comment faire pour pouvoir accueillir et accompagner ces personnes, puisque elles ont aussi le droit d'être accompagnées pour retrouver l'emploi durable.
Bien sûr.
Et c'est comme ça qu'est arrivée la numérisation d'archives, effectivement, où là, on va aller chez les clients, essentiellement entreprises et un peu de collectivités, où on va aller chercher leurs archives et on va numériser dans ce qui s'appelle un cloud, si on peut appeler comme ça, un coffre-fort numérique, exactement. Et après, on restitue tout ça aux clients. Et c'est un métier qui est à l'intérieur, qui est plus en position assise et qui permet à des personnes qui ont des mobilités réduites de pouvoir travailler.
Oui, puis ça a du sens aussi, hein. J'avais reçu ici les archives départementales. On voit, et puis les gens y sont attachés en plus. On en a besoin pour des raisons historiques, techniques, juridiques, hein, de ces archives. Mais aussi les gens sont attachés à l'histoire qui parfois part en fumée ou dans les inondations. C'est déjà arrivé ?
C'est déjà arrivé. On a travaillé, nous, pour une collectivité où une grande partie des archives sont parties dans une inondation. Effectivement, c'est beaucoup d'émotions, en tout cas, pour la collectivité. Et donc, ils font ce choix, effectivement, de conserver toujours le papier, mais de le numériser au cas où arriverait de nouveau une nouvelle catastrophe.
Oui, bien sûr. Voilà, bon, c'est intéressant. Et donc, en fait, aussi la destruction de documents, hein, la déchiqueteuse.
C'est ça. Et oui, on détruit tout ce qui peut être document pour les entreprises ou collectivités qui ont des documents à détruire. Nous, on les détruit, puis on leur assure un certificat de destruction pour leur assurer que ce document ne pourra jamais être retrouvé nulle part. Après, on travaille avec le Siétom de Chalosse qui récupère les papiers pour en faire de la valorisation derrière.
D'accord, donc peut-être que vous avez quelqu'un de la CIA qui est caché chez vous, la DGSE peut-être qui récupère les papiers cachés, on ne sait pas.
Peut-être, on ne sait pas.
Et avant de passer à la prochaine pause, je voulais parler aussi rapidement du nettoyage des verres réutilisables, hein, donc ces fameuses éco-cups, là aussi vous intervenez, parce que ça fait du travail, hein, l'air de rien, dans un festival ou un truc comme ça.
Alors, tout à fait, au départ, c'est le Siétom de Chalosse qui nous avait sollicité, puisqu'ils avaient cette activité en interne et ils ont souhaité externaliser le nettoyage des verres. Donc, eux gardent le principe de la location aux associations et nous, on leur facture le nettoyage de ces verres-là. Mmh. Alors, c'est simple. Les clients viennent le jeudi ou vendredi. Les associations ont récupéré les verres propres et le lundi, mardi, ils les ramènent sales. Mmh. On nettoie et ils repartent le jeudi et vendredi dans d'autres nouvelles associations. Mmh. Et après, on essaie de le développer aussi pour des associations en direct qui ont déjà leurs propres verres et qui souvent, dans les événements, manquent après de bénévoles pour faire ce travail de nettoyage. Donc, des associations nous les amènent aussi pour qu'on leur nettoie.
C'est vrai que ça demande du travail.
C'est du travail. travail entre le lavage ouais. et essuyer un verre éco-cup.
Oui, parce que le séchage, c'est plus casse-pied que du
verre. Nous, hein. On a une technique qui est propre à nous. Je vais quand même vous la divulguer.
On fait des
pyramides.
Oui.
Et après, avec une ventilation accentuée, ça sèche tout seul.
Ah, je vois. Oui, parce que c'est vrai que si on les empile les uns sur les autres, ça ne va pas sécher.
Non.
Ah, la technique de la pyramide, bon, vous entendez, chers auditeurs et auditrices, la technique des pyramides, vous saurez d'où vient ce secret. Oui, alors moi, j'ai constaté une petite tendance quand même dans pas mal d'associations qui organisent des événements. Ils font de moins en moins quand même le retour de la consigne, en fait, parce que c'est peut-être à cause justement de la difficulté de la logistique, ou ça vient de là.
Oui, les retours qu'ils font, effectivement, c'est que c'est très difficile d'instaurer le système de la consigne, en fait, sur le rendu monnaie, sur le comptage. Donc, effectivement, souvent, ça arrive maintenant qu'ils facturent le verre.
Oui, c'est vrai. Bon, très bien, on va faire une dernière petite pause et puis on sera déjà rendu à la fin de cette émission. À tout de suite. Et c'est la dernière partie de cette émission avec nos invités, hein, Corinne et Tina de l'Arbre à Pain. De Bégard, bien sûr. Il nous reste encore des petites choses à dire. Il y a aussi ce fameux... Bon, on a bien compris, on va le redire, on va enfoncer le clou, que le but du jeu, c'est l'insertion, c'est que les gens, ils trouvent du travail, qui puissent gagner leur vie, comme on dit, même si c'est un terme que plein de gens n'aiment pas. Donc, vous avez quand même des chiffres sur les sorties des gens de votre dispositif.
Ben oui, alors juste, nous, sur une année, on peut accueillir 100 à 110 personnes qu'on va accompagner et remettre au travail. Pendant leur parcours d'insertion au sein de l'association, donc ils sont accompagnés par deux accompagnatrices qui va aider sur s'il y a des freins de mobilité, de logement, mais surtout elles vont aussi travailler sur le CV, la simulation d'entretien. Elles vont aussi les accompagner pour faire des PMSMP. Alors exactement vous redire ce que c'est PMSMP, je vais pas avoir la définition complète, je vais dire que c'est un stage,
une sorte de stage,
c'est des formes de stage. Ils sont salariés de l'association et ils vont en stage dans des entreprises pour aller découvrir un métier ou aussi valider un projet, justement, puisque comme vous le disiez, l'objectif, c'est d'accompagner ces personnes à retrouver un emploi. Ils sont de passage chez nous, puis ils repartent vers l'emploi en CDI, en CDD ou formation qualifiante comme Tina.
Oui.
Sur l'année dernière, on a 80% des personnes qu'on a accompagnées qui sont repartis effectivement dans l'emploi ou la formation.
Bon, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est...
On en est assez fiers, on ne va pas se dire, parce qu'effectivement, c'est vraiment notre cœur de métier et on se bat effectivement au quotidien pour pouvoir accompagner le maximum de personnes à retrouver le monde du travail, puisque c'est quand même valorisant de repartir dans le monde du travail, gagner son propre salaire, subvenir soi-même à ses besoins, tout ça. Donc,
c'est sûr. Alors, pour faire un parallèle, ça fait plaisir aux gens qui suivent le football, c'est la différence entre être sur le banc de touche et être sur le terrain.
Exactement.
Hein, c'est un peu ça quand même.
C'est ça.
Voilà. Et puis alors les PMSMP, c'est vrai que c'est aussi un dispositif que propose souvent France Travail quand on est au chômage et que on a un projet justement. C'est vrai, tiens, je voudrais faire ça maintenant. Il y a beaucoup de reconversions dans le carrière d'une vie maintenant. Et c'est vrai que France Travail propose ce dispositif.
Tout à fait. France Travail le propose. Et donc nous, conventionné avec France Travail, on peut effectivement envoyer des personnes sur... Au départ, c'est souvent, ils en font plusieurs quand ils sont en parcours chez nous, en fait. La première, c'est pour découvrir un métier, parce qu'ils hésitent des fois entre deux, trois métiers. Donc, ils vont aller découvrir le métier. La fois d'après, ça va être plus, effectivement, pour aller valider. Quand ils ont défini le projet, se dire « ouais, tiens, c'est ce métier-là que je vais faire », et la PMSMP est valide. Et la dernière, qui est pour nous la plus importante, c'est qu'en fait, souvent, elle est source aussi d'embauche derrière.
Et oui, bien sûr.
Certains, donc, on l'offre, c'est une proposition qui est faite aussi aux entreprises qui recrutent, de présenter nos candidats et leur dire « ben voilà, faites une PMSMP avant de l'embaucher,
bien
comme
sûr.
Ça, vous pouvez le découvrir le candidat ». Et souvent, ans, c'est celle qui permet de déboucher vers l'emploi.
Oui, bah c'est vrai que c'est plus pertinent pour une entreprise de faire juste un entretien CV, lettre de motivation et une entrevue d'une demi-heure, c'est une chose, mais une semaine entreprise dans les conditions réelles, ça donne quand même un autre aperçu sur le candidat, et c'est quand même mieux aussi pour les entreprises, pour tout le monde en fait.
C'est ça.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Corinne et Tina, d'être venues nous parler.
Merci de nous avoir invités.
Eh bien, avec plaisir, avec plaisir. On voit bien que vous faites partie du territoire. Est-ce que vous y faites? Et puis, j'ai envie de dire bravo et merci.
Mais merci à vous de nous avoir invités. J'en profite juste pour remercier effectivement tous les partenaires qui peuvent nous accompagner au quotidien pour nous aider à réaliser notre mission d'insertion.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup et bon retour dans la fournaise. Au revoir, mesdames.